Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la dernière émission de Par les temps qui courent pour la semaine. Tous les soirs, une heure, un ou une artiste, ce soir, Joël Pommerat.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Joël Pommerat.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Il faut arrêter de ne pas faire ce que nous devons faire. Et ce que nous devons faire est dangereux, illégal, légitime, juste. Voilà une des phrases que l'on entendait hier soir sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin. Et après, c'est à nous de la conjuguer au temps qui conviendra. C'est-à-dire, oui, bien sûr, la fin du XVIIIe siècle parisien, dans l'enceinte de ce qui est en train de devenir l'Assemblée nationale, mais aussi, pourquoi pas, au présent, ou encore au passé tout proche. Novembre 2015, par exemple. Ça ira, fin de Louis, était repris au théâtre des Amandiers de Nanterre, après Mons, et il y avait à l'entrée de la salle un écriteau pour moi, pour nous, avertissant que certains sons du spectacle ressemblaient à de réelles explosions. Plusieurs dizaines de personnes venaient d'être assassinées à Paris et Saint-Denis, et ce que nous devions faire, justement, comment nous devions le faire, était une question béante. Votre spectacle sur la Révolution française, comme on a beaucoup dit, Joël Pommerat, est un spectacle sur la parole comme acte, sur la peur comme outil politique, un spectacle sur le spectacle, une nouvelle corde ajouté à l'instrument du trouble qu'est pour vous le théâtre. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir.
Ça ira, fin de Louis, joue jusqu'à la moitié du mois de juin, je vais y arriver, au théâtre de la Porte Saint-Martin, à Paris. Fin de qui, en fait? Profitons de ce lapsus.
Bah, fin de lui, oui, ça, oui, fin de cette personne qui incarnait un pouvoir absolu, héritier d'une tradition politique vieille de plusieurs centaines d'années.
Et fin de quoi pour vous? J'avoue que j'ai quand même vu pas mal de spectacles et je me dis que c'est pas la fin de quelque chose mais que c'est probablement un tournant, ce spectacle, dans ce que vous avez créé jusqu'à maintenant, Joël Pommerat.
Bah, il se trouve que depuis ce spectacle, j'ai pas fait d'autres... j'ai presque pas fait d'autres spectacles, avec ma compagnie, j'en ai pas fait d'autres. J'en ai fait dans un autre lieu, c'est-à-dire dans une prison. J'en ai quand même fait 3. Donc, d'une toute autre nature, quand même, on peut dire ça. Et puis, j'ai fait 2 opéras, qui c'est vraiment très, très différent. C'est presque pas du théâtre. Mais oui, du coup, je prends mon temps. J'ai pris mon temps pour passer à autre chose, vraiment. Et je pense qu'en tout cas, il y a eu une fatigue. Il y avait une fatigue déjà avant de créer ce spectacle. Qui donc était très forte en finissant. Et cette fatigue, je pense qu'elle me raconte quelque chose, oui, qu'il faut aller dans un endroit peut-être pas complètement opposé à celui que j'occupais avant, mais en tout cas, faut que je me pose des questions, en tout cas.
C'est drôle parce que quand même la phrase que j'ai le plus relevée donc hier soir en revoyant le spectacle, c'est « il faut arrêter de ne pas faire ce que nous devons faire ».
Ouais, j'aime bien cette phrase.
Ouais.
Elle est franchement pas historique et en même temps, oui, elle est un petit peu, elle est pas démagogique, mais elle est un petit peu, elle est simpliste en même temps. Voilà, elle est un peu, elle ronfle un petit peu quand même. Elle est un peu leçon de morale aussi tout ça, mais oui, on peut dire que c'est bien de se l'appliquer à soi-même de temps en temps, tranquillement.
C'est ce que j'allais dire, elle peut être tout autre si elle a une consonance très intime d'un seul coup.
Oui, oui, c'est ça, mais le dire devant les autres, fort de sa superbe, voilà, c'est quelque chose d'un petit peu surplombant, quoi. C'est pas très... Oui, c'est un peu surplombant.
Parce qu'elle est prononcée par des députés, dans un contexte très particulier, mais voilà, parmi les phrases relevées hier, c'est celle-ci, donc au regard du travail en cours, peut-être c'est intéressant. Ouais. qu'elle nous guide pour ce soir. On entend un extrait de la pièce.
Mesdames, messieurs, j'aurais aimé m'étendre en remerciements. Votre confiance et le soutien que vous m'avez apporté pendant les événements terribles de ces derniers jours m'ont profondément touché. Votre attitude a très certainement pesé sur la décision du chef de l'État de me rappeler et de me rétablir sa confiance. À peine sorti de son bureau, je me suis donc empressé de venir jusqu'ici afin de vous alerter sur la situation financière de notre pays qui s'est encore dégradée malheureusement ces derniers jours. On m'a signalé dès ce matin, à peine arrivé dans mes services, que depuis un mois, aucune rentrée fiscale n'était parvenue dans les caisses de notre État. En langage clair, plus personne dans ce pays ne s'est acquitté de ses devoirs d'imposition depuis un mois. Sans vouloir vous désespérer encore un peu plus, c'est bien à une banqueroute intégrale de la France que nous aurons à faire face d'ici une à deux semaines selon mes prévisions. Une impossibilité d'acquitter nos dettes et d'honorer le moindre des services de l'État, qu'ils soient judiciaires, pénitentiaires, militaires ou même hospitaliers. Vous vous en doutez, mesdames, messieurs, alors que notre pays plonge actuellement dans la détresse et sombre dans la violence, une faillite, c'est certain, entraînerait des désordres encore bien plus graves.
La musique de Charlie Hou n'est pas dans votre spectacle, Joël Pommerat. En revanche, la musique de ce que c'est qu'un discours politique, oui. Est-ce qu'il fallait se méfier, en entendant là le quasi-début du spectacle, de la séduction de cette petite musique-là, au sens de la séduction, de la ressemblance des discours politiques entre eux, les époques passant?
Oui, bon, un petit détail, c'est pas le tout début du spectacle, là, c'est vrai, c'est le moment où après avoir été limogé, le Premier ministre est rappelé dans ses fonctions, donc après le 14 juillet.
Et je sais pas du tout un petit détail.
Mais je me disais ça en l'écoutant, je me disais, oh, on dirait vraiment, il est très bon, Yannick Choira, en tout cas exactement à cet endroit que vous dites, c'est. On dirait un discours politique d'aujourd'hui. Je pense que ça tient aussi au fait que c'est un discours assez technique, en fait. Il y a quand même dans ce spectacle des moments d'allocution comme ça qui sont finalement assez factuels, assez. Elles disent des choses aussi sur le moment et sur la personne qui le prononce, mais il y a pas de lyrisme, il y a pas de c'est technique, technocratique presque tout ça. Oui, moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment le point de départ. J'y repensais il y a quelques jours. C'est le point de départ de ce projet, en fait, pour moi. C'était l'envie de mettre en scène des gens faisant des discours, c'est-à-dire face à une assemblée, face à d'autres, se mettant à dire une pensée, exprimer une pensée oralement, publiquement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez fascinant et théâtral. Et j'avais vraiment envie d'aller chercher ça. Et non pas en imitation, pour répondre à la question, non pas en imitation de ce que c'est qu'un discours politique, la musique, la chanson, l'air, mais aller chercher en profondeur qu'est-ce que ça peut être politique dans une parole, c'est-à-dire dire des choses les plus profondes possibles, les dire évidemment d'une manière relativement simple, suffisamment simple pour que ce soit dans une temporalité de l'oral, et en même temps rajouter à ça la condition du politique, c'est-à-dire de pas parler complètement gratuitement et avoir à l'idée que c'est pour remporter la bataille des idées, c'est-à-dire gagner sur l'adversaire. C'était comme, finalement, une métaphore sportive, c'est si je peux me permettre, c'est-à-dire c'est, on joue pas juste pour bien jouer, il faut gagner le match. Et en politique, c'est encore bien plus important parce que c'est pas du spectacle, c'est la vie qui est en jeu. Donc c'est-à-dire il faut que on soit bon, qu'on exprime la justesse de ses pensées, mais qu'en plus elle remporte le match de la compétition des idées. Et donc il faut être presque à un moment donné sans merci, sans pitié, et ne pas hésiter à ce que l'autre soit dominé, voire écrasé.
Mais quand vous dites finalement c'était ça le désir du travail sur la constitution de l'Assemblée nationale, sur la Révolution française, ça veut dire que vous vouliez mettre en scène des personnes qui font des discours, pourquoi ? Pour mieux les regarder ? Pour en entendre d'autres ?
Non, mais parce qu'on fait toujours... Au début, quand on commence un travail, d'écriture, de création, on n'a pas en tête la forme définitive et la forme qu'aura finalement prise le projet. On est avec certains désirs, certaines choses qui vont. J'ai déjà entendu des gens dire voilà, moi j'ai fait ce projet parce que je voulais faire ce petit moment là. Ça me fascinait. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de filmer. Une rivière, donc j'ai construit une histoire pour avoir l'occasion de filmer cette rivière. Là, je me suis engagé dans ce projet pour avoir la possibilité de mettre en scène des personnes en train de faire des discours. Et j'ai passé un temps de recherche assez long, presque 2 mois de temps, à ne faire que ça, à demander à des comédiennes et des comédiens de monter sur scène et de produire du discours. Et donc de réfléchir à toute la, enfin, ce que ça impliquait. Entre autres, ça impliquait de pas chercher à imiter, puisque l'idée c'était c'était pas de chercher la surface de ça, mais d'aller chercher ce que ça voulait dire d'être dans cette action-là. Qu'est-ce que ça signifiait? Qu'est-ce que ça impliquait pour celui ou celle qui le mettait en acte? Ça m'a fait me pencher, réfléchir au-delà de la séduction que j'avais, puisque je suis parti de cette séduction du discours de entre ici Jean Moulin, tout ça, enfin c'est cette prise de parole qui nous fait frissonner, qui nous fait d'un seul coup ressentir qu'on est relié à,
mais qui est hyper rare. Enfin, vous oui, citez Malraux, mais en fait,
oui, oui, mais depuis... Oui, bien sûr, c'est un mythe. C'est bien sûr que c'est du...
C'est très rare des gens qui prennent la parole aujourd'hui, parce qu'en vous écoutant, je me dis que ça suppose un fond tellement fort, une forme de sincérité, quand vous dites que c'est pas du spectacle. Mais aujourd'hui, la parole du discours qui n'est pas du spectacle.
Non, mais
est
du coup, ce qui est clair, c'est que ça raconte pas aujourd'hui, ça. Ça raconte plus aujourd'hui. Et c'est pour ça que, ce spectacle-là n'est pas de ce point de vue-là et de plusieurs autres points de vue n'est pas d'une totale modernité, quoi. On l'a souvent dit, la politique avec la télévision, peut-être la radio aussi, a été complètement modifiée. C'est plus le rapport direct à l'autre, quoi. Mais je pense que jusqu'à cette époque, j'ai envie de croire que jusqu'à cette époque-là, où de la médiatisation du politique il y avait encore cette dimension-là de la parole devant un public, devant des foules, devant un peuple, devant une assemblée en tout cas, et qu'il y avait un véritable travail de cet art oratoire, oui.
Ça renseigne aussi sur le reste de votre théâtre, Joël Pommerat, parce que je me suis toujours demandé quelle était votre confiance dans la parole. En voyant vos spectacles, je me suis toujours dit, est-ce qu'il est confiant dans ce que c'est que de parler aux autres ? Et je me suis toujours dit, peut-être pas du tout.
Ah mais ça c'est clair, c'est très clair. Pas du tout, non, non. Et je me suis toujours situé, enfin je me suis toujours opposé, c'est trop fort, mais je me suis toujours détaché de l'idée que le théâtre serait le lieu du verbe, de la parole, et que c'était ça qui faisait l'essence même du théâtre aussi. Et en plus, oui, moi je crois pas du tout à la parole comme instrument de la vérité et de la justesse. Enfin, ça c'est pas nouveau non plus, c'est pas moi qui l'ai conceptualisé, cette idée hein, de l'incommunicabilité entre autres et tout ça, c'est pas...
Pourtant vous faites des spectacles où ça parle. Je me rappelle de Je tremble à Avignon, ça parle.
Oui, ça parle, mais ça dit à travers la parole, ça raconte quelque chose qui se situe aussi dans l'action, qui est parallèle, en dessous, à côté de cette parole. Et c'est ce frottement-là, ce dialogue-là, si on peut dire, qui produit du sens. C'est pas la parole directement qui produit le sens. Et là, vraiment, avec ce spectacle-là, oui, il y a un tournant, il y a un retournement par rapport à tout ça, par rapport à la défiance vis-à-vis de la parole. C'est le fait que la parole est une action en ce sens. Quasiment toutes les paroles de ce spectacle sont des actions, voire des actions, on va dire magistrales, quoi. La parole qui dit voilà, nous décrétons Assemblée nationale, c'est une parole politique c'est une parole qui
performative,
qui a encore des conséquences aujourd'hui dans nos vies, quoi. Donc c'est une action prodigieuse. Donc, en ce sens, là, la parole devient action. Et moi, je fais un théâtre, d'action. Je fais pas un théâtre jusqu'à ce jour, je faisais pas un théâtre de parole. Et je me suis mis à faire un théâtre de parole avec ce spectacle parce que, justement, la parole était une action dans ce spectacle.
C'est un spectacle où il est d'abord beaucoup question de se réunir. Et par exemple, probablement j'étais distraite en cours d'histoire, mais moi je me souvenais plus qu'un des grands enjeux à ce moment-là, c'était que les trois assemblées se réunissent. Le tiers-état, l'église et la noblesse. Et qu'il y a toute une sorte de suspense, une dramaturgie autour de cette réunification, non pas des deux Corées, mais des trois assemblées. Et ça encore, c'est quelque chose qu'on peut entendre comme ça décliné, c'est-à-dire oui, du point de vue historique. Et puis aussi, qu'est-ce que c'est qu'être au théâtre? Comment on peut se réunir? Est-ce que c'est une illusion de croire que ça peut être un lieu de réunion ou pas? Et je me suis dit que c'était aussi peut-être un spectacle là-dessus. Qu'est-ce que c'est que se réunir vraiment? Se rassembler vraiment?
Ouais. C'est un mystère pour moi, ça. J'ai pas complètement d'idée là-dessus. C'est très politique, cette idée de réunion, de réunification quand même. Hein. C'est pas métaphorique, quoi. C'est très concret, quoi. À ce moment-là, à cet endroit-là, c'est même capital. C'est l'enjeu de la, enfin, c'est l'enjeu de modifier totalement le système politique profondément inégalitaire. C'est de casser, les castes, les ordres en place, mais finalement cette division de la société en citoyens, enfin on dirait aujourd'hui en citoyens et sous-citoyens, quoi, puisque il y a des gens à 200 000 qui ont un pouvoir décisionnaire équivalent à politiquement à 25 millions de personnes qui composent le tiers état. C'est hallucinant. Enfin, ils sont à égalité. Ces deux groupes sont à égalité. On pèse la même chose politiquement. Donc ça veut bien dire qu'il y a des gens qui ont, je sais pas combien de milliers de fois plus de pouvoir que d'autres. Évidemment, ceux qui ont moins de pouvoir disent, voilà, c'est fini cette division-là, on se met tous ensemble, et vous valez, vous les 200 000 là, vous valez une personne comme nous, on vaut une personne, tout le monde vaut une personne aujourd'hui, c'est ça l'idée, quoi. Il y a personne qui vaut 50 fois plus qu'un autre, aucune autre. Enfin, voilà.
Et ça se fait par exemple en mettant toutes les personnes dans un même local. C'est le mot qui est utilisé. On va mettre tous les gens dans le même local.
Oui, c'est un député un peu naïf qui emploie ce terme. Mais,
bah
oui,
mais ça dit la force de ce que c'est qu'un espace.
Oui, complètement, complètement.
Il me semble que c'est une question qui nous est aussi adressée aux spectatrices et aux spectateurs que nous sommes. C'est... Qu'est-ce que c'est que se réunir dans un théâtre? Qui est là et qui n'est pas là? Enfin, moi, j'ai aussi énormément entendu hier tous ces gens qui n'étaient pas au théâtre de la Porte Saint-Martin et qui peut-être n'y viendront jamais de leur vie. J'ai beaucoup entendu ça. On est rassemblés ici, on est réunis, mais j'ai vraiment énormément entendu la limite de notre rassemblement.
Oui, mais donc moi, je penserais davantage à, effectivement, ce local, enfin, une société, quoi. Évidemment. Et ces groupes qui la composent et qui ne sont pas tous de même valeur et ne représentent pas la même capacité, n'ont pas la même capacité, le même pouvoir. Oui, ça c'est clair que, en ce sens, ce serait complètement encore une situation. Enfin, cette situation théâtrale pourrait décrire une situation d'aujourd'hui, absolument, absolument. Avec à la différence que la situation d'hier était complètement visible, ces ordres-là étaient complètement institutionnels. Alors qu'aujourd'hui,
tiers d'État, noblesse et Église.
Voilà. Alors qu'aujourd'hui, toutes ces catégories de pouvoirs différents ne sont pas visibles.
Il n'y a officiellement pas de sous-citoyennes et sous-citoyens.
Exactement, et c'est bien la perversité de notre système actuellement qui se qualifie de démocratique, c'est que l'inégalité, elle est officieuse, quoi. Et que comment, justement, aujourd'hui, politiquement, on travaille quelque chose qui ne se dit pas, quelque chose qui n'est pas inscrit dans la loi, qui est inscrit à l'inverse dans la loi. Quand l'égalité est inscrite dans la loi et que du coup elle devient, puisqu'elle est dans la loi, elle devient soi-disant réalité. Et d'où confusion entre réalité et l'égalité.
D'où persistance de la défiance à l'égard des mots.
Bien sûr, oui. Et oui, et oui.
Souvent la salle s'allume. Et il y a évidemment des gens sur la scène, des hommes et des femmes, et puis il y a aussi spectatrices et spectateurs dans le public, et puis il y a aussi d'autres personnes qui sont, on les appelle figurants ou comédiennes et comédiens, installés parmi nous, et qui vont se lever, frapper des mains, invectiver d'autres personnes, commencer des discours. On va écouter Denis Guénoun en 2006 dans l'émission Surpris par la nuit, qui parle du rapport physique à ce que c'est que de regarder un spectacle.
Moi, personnellement, ce qui me manque dans la salle, et je dis ce qui me manque quand je suis spectateur, c'est l'action physique. Alors, ça touche à l'architecture des salles, hein. Ça touche à la façon dont elles sont faites, au problème des fauteuils, à la façon dont elles sont construites, au fait que quand on est au centre de la rangée, on ne peut pas sortir sans déranger tout le monde, au fait du silence, au fait de l'obscurité, au fait d'une espèce de processus d'immobilisation physique. Au théâtre, j'ai envie, mais comme spectateur, et je dirais surtout quand ça me plaît. Alors, je prends un exemple qui touche au Théâtre National de Bretagne, spectacle de Jean-François Sivadier, que j'admire énormément, qui me crée une espèce de grande joie, et difficilement compatible avec l'écrasement dans la position, dans l'immobilité du spectateur. C'est pas du tout un truc, tu vois. Et je pense que l'activité de pensée, ça va pas forcément de pair avec l'inertie physique. Voilà, c'est ça. Moi, plus je suis content, plus j'ai envie de sauter, de bondir, de crier un peu, d'applaudir, de taper sur l'épaule de mon voisin ou de ma voisine. Et voilà.
Denis Guénoun, donc en 2006, dans l'émission Surpris par la nuit. Alors, je le disais, ce qui en est de ce que vous proposez, Joël Pommera, en mettant des gens parmi nous. Et je voudrais qu'on discute de ce que cela peut induire pour la place de celles et ceux qui regardent.
C'est un mystère, parce que je ne serai jamais spectateur, moi, de mon spectacle, complètement. Je ne peux que me fier à ce que j'ai entendu de ces spectateurs véritables, disant parfois, j'aurais bien aimé intervenir, mais j'ai pas osé, ou bien au moment où j'aurais pu intervenir, c'était déjà passé à autre chose. Évidemment, enfin, moi, ce qui me semble, c'est que bien sûr, c'est écrit, c'est une écriture de spectacle, donc ça va vite, ça va plus vite que dans la vie. Dans la vie, on a le temps.
Ça
dépend des fois. Mais on a un peu plus le temps. Il y a un peu plus de temps mort, de temps creux, de où on peut prendre le micro ou la parole. Là c'est pas possible, c'est un autobus lancé à 100 à l'heure, il me semble ce spectacle. Donc spectateur, on est à la fois agité par tout ce qui se passe autour de nous, on est certainement à des moments on peut être agacé, il y a des gens qui sont très agacés, mais on peut être excité et avoir envie en quelque sorte de s'exprimer, puisqu'on est à la place, dans la position, dans la même position que ceux qui s'expriment. Donc on est sollicité à le faire.
C'est arrivé?
Très rarement. On s'est posé la question avant la première vraiment du spectacle. Qu'est-ce qui allait se passer? On s'est dit mais les gens vont vraiment. Enfin, on s'imaginait qu'on allait produire plein de prises de parole et puis finalement ça n'est pas arrivé quoi. C'était pas fait pour. Donc il n'y a pas de déception de ce point de vue-là, mais la raison principale pour laquelle tout ça n'arrive pas, je pense que c'est la question de la vitesse.
Donc de la place possible pour le faire en fait.
Oui, on laisse pas la place clairement.
Ça fait 4 ans un peu plus que ce spectacle tourne. 4 ans.
Ça va faire 4 ans.
Ça va faire 4 ans. Il y a un moment donné où ça cogne contre cette Assemblée nationale naissante, ça gronde, ça explose, et j'aimerais qu'on reparle du Théâtre des Amandiers, novembre 2015, parce que moi c'est la première fois que je l'ai vu, et un écriteau nous prévenait, et moi j'avais complètement oublié ça, simplement hier quand ça a commencé à cogner, je me suis dit « Ah tiens, c'est vrai, j'ai pas eu d'écriteau là ». Ça veut dire que probablement on a supposé que ma peur avait diminué. Et que mon choc était passé, et que j'allais recevoir autrement ces bruits d'explosion. Comme c'est un spectacle sur la peur, je voudrais savoir quel trajet il a fait justement, entre novembre 2015 et puis hier, mai 2019, de votre côté.
Le trajet qu'il a fait de mon côté.
Ouais, à ce sujet-là, au sujet de la peur.
Le spectacle s'imprègne de toutes les actualités politiques, mais pas toutes les actualités politiques déjà, et puis de toutes les émotions individuelles et collectives. Là, tout ce que vous racontez au mois de novembre, le spectacle, il était totalement imprégné. Je dis le spectacle parce que composé à la fois des actrices et des acteurs et des spectateurs, il était imprégné de l'émotion qui traversait tout le monde. Il n'y a pas eu depuis, à mon avis, de moments de si grande violence traumatique, quoi, de si grande violence émotionnelle. Donc, moi, j'ai plutôt ressenti l'inverse. Complètement l'inverse, et quelque chose qui risquait d'anesthésier le spectacle. J'ai ressenti la possibilité qu'un contexte à la fois politique et enfin un contexte collectif, sociétal, puisse anesthésier le spectacle. C'était au mois de juillet, la dernière fois qu'on l'a joué, justement, on l'avait pas rejoué depuis juillet, à Paris, Paris quartier d'été. C'était juste avant l'affaire Benalla. Le gouvernement Macron avait une année. Tout le monde disait, et ça semble très loin, tout le monde disait, il est en train de réussir son coup. Il a complètement, il maîtrise complètement les syndicats. Plus personne n'ose manifester. La grève à la SNCF n'a rien donné. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Et j'ai l'impression que tout le monde était un petit peu abruti dans cette ambiance.
Et qu'il n'y avait plus de résonance possible, d'un seul coup.
Et d'un seul coup, ce spectacle, il semblait vieux. On est bête, quoi, parce que, enfin, je pense que, voilà, on est bête. Pardon pour ceux qui n'ont pas ressenti ça, mais je me suis dit, c'est possible qu'on ressente ça. C'est possible qu'on se dise, mais tout ça, c'est très loin.
Tout ça, la Révolution française, quoi.
Ces conflits, cette virulence, c'est d'un autre temps. Cette manière-là de l'incarner, tout ça, est complètement ces thèmes-là sont dépassés. ça voilà ce que ça infusait sur nous, je crois, je pense, sur les spectateurs, sur moi, sur sans doute sur les actrices et les acteurs. Et il suffit, voilà, d'autres événements pour que d'un coup tout le monde se dise voilà, complètement agité par des questions extérieures au spectacle et qui vont nourrir le spectacle. On est quand même très très, on est des êtres un peu enfermés dans notre présent, comme ça, un petit peu.
Au théâtre?
En général, et au théâtre encore, oui, du coup. Et tout ça me fait vraiment dire une chose qui m'a un petit peu désespéré au théâtre, c'est cette sensation que celui ou celle qui vient au spectacle vient avec son monde, quoi, avec son contexte, et que avec sa grille d'interprétation de tout ce qui va lui être présenté, quoi.
Et quoi, vous auriez comme ça l'illusion ou le désir de vouloir ou de pouvoir
non,
faire table rase au moment du noir?
Non, parce que moi j'ai toujours pensé qu'on changerait la vie de personne en lui montrant un spectacle, mais un peu cette illusion qu'on allait pouvoir à un moment donné partager un objet commun, quoi, c'est-à-dire voilà, tiens, ce que je te montre, voilà ce que je te montre, tu le vois, voilà, enfin déjà tu le vois bien tel que je te le montre quand même.
Bah non
et c'est d'où après l'idée, mais c'est pas grave, c'est l'objet le plus intéressant, c'est pas ce que je vais te montrer, c'est de me projeter le plus possible du côté de tiens, comment tu vas interpréter ce que je vais te montrer, et je vais travailler avec cette évaluation que je fais de comment tu vas regarder ce que je te montre,
sachant que jamais vous ne le savez.
Non, mais
ça peut rentrer dans votre rêvasserie, mais jamais vous ne savez comment qui que ce soit va recevoir ce que vous proposez.
Non, mais je peux éventuellement réfléchir à la façon majoritaire dont les gens peuvent interpréter telle ou telle chose.
Et vous le faites beaucoup.
Essayer de construire quelque chose avec ça. Mais par exemple, quand on fait un spectacle sur la Révolution, on peut imaginer plus ou moins quelles sont les grandes représentations que les gens ont dans leur tête au moment où ils viennent voir ça ira la Révolution française, par exemple. Donc je peux aussi essayer de travailler avec ce que je suppose être les représentations individuelles et collectives majoritaires des spectateurs.
Et vous continuez de dire, Joël Pomerac, c'est un spectacle sur la Révolution française? Enfin, vous continuez, je ne sais pas si vous avez commencé, mais en tout cas, vous dites ça.
Oui, bah oui, quoi dire d'autre?
Ah, je sais pas, moi, plein de choses.
Non, non, je dis ça, bien sûr. Bien sûr que c'est un spectacle sur la Révolution, c'est un spectacle sur la légende de la Révolution française.
Donc, par exemple, grande importance des archives, du travail avec les historiennes et les historiens.
Grande importance parce qu'on a bien voulu. On aurait pu aussi, enfin, je sais pas, on aurait pu faire, j'aurais pu décider de faire comme je fais avec Le Chaperon Rouge ou avec Pinocchio, qui est vraiment, qui est pas du tout honnête intellectuellement, de dire, bah, je vais réécrire ces histoires-là, mais je vais pas les relire d'ailleurs. Je vais travailler avec le souvenir complètement faussé que j'en ai. Avec le souvenir que j'en ai, qui est forcément pas complètement exact. J'aurais pu dire, voilà, je vais travailler avec ce que je crois être la Révolution française. Ça, je pense que c'était moins intéressant. J'ai eu envie, justement, de me confronter à l'inverse de ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire, les faits, les preuves, les restes. Mais à un moment donné, de toute façon, ce qu'on fait avec ces preuves, ces restes et tout ça, ça devient de la fiction et du produit imaginaire, quoi.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Joël Pomerat.
Il y a aujourd'hui un nombre important de spectacles qui organisent l'œuvre dans le déjà-là de l'égalité des intelligences, qui ne sont pas là pour m'émanciper, parce que vouloir émanciper quelqu'un, c'est toujours le maintenir sous sa tutelle, c'est toujours en faire un obligé. Donc ils ne sont pas là pour m'émanciper, qui d'une certaine manière même se désintéresse des effets qu'ils produisent parce qu'on ne sait jamais complètement ce qu'on est en train de produire sur quelqu'un, mais qui travaillent pour eux à essayer, eux, de s'émanciper, c'est-à-dire, dans le vocabulaire de Rancière, à se désidentifier de la place à laquelle ils sont. Se désidentifier, c'est de ne pas tenir son identité, ne pas tenir en place, se déplacer. Et il y a, me semble-t-il, beaucoup de spectacles, beaucoup d'œuvres, beaucoup de trajectoires ou de projets aujourd'hui en cours qui témoignent de ces moments de liberté qui font que on assiste en tant que spectateur, on fait l'expérience de temps où on nous fout la paix, ce qui est quand même très très rare dans cette société, qu'on nous foute la paix, où on nous laisse être, pour parler toujours comme Rancière, le propre poète du poème qu'on est en train de voir, arriver à se glisser dans les interstices de ce qu'on a, on comprend ce qu'on a envie de comprendre, on voyage comme on a envie de voyager, et ce temps de liberté, c'est, comment dire, c'est comme une anticipation d'une société différente.
C'est la voix d'Olivier Neveu qui était au micro de Joël Gaillot. J'en profite en 2017, j'en profite pour dire que vous publiez avec Joël Gaillot un dialogue sur votre théâtre et c'est aux éditions Actes Sud. Joël Pommerat, quand Olivier Neveu dit finalement peut-être le plus intéressant pour le théâtre de maintenant, ce serait pas tant de s'occuper d'émanciper les autres que d'abord s'émanciper soi-même et émanciper le théâtre que l'on est en train de faire. Comment vous l'entendez et est-ce que cela vous parle? Et dans ce cas, qu'est-ce que ce serait pour vous et pour votre troupe de comédiennes et de comédiens de d'abord s'émanciper soi-même?
Vaste sujet, bien sûr. Mmh. Hein, vous n'attendez pas à ce que je vous réponde comment je vais procéder?
Non.
Pour faire ça, c'est le travail d'une vie. Voilà. Non, je suis entièrement d'accord avec ces propos. Je suis animé depuis que je cherche à écrire tout simplement, écrire du théâtre. Je suis vraiment obnubilé par la notion d'ouverture, d'œuvre ouverte, quoi. C'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas l'expression d'une relativité absolue des choses, qui est un point de vue, qui est un propos, mais qui ne s'impose pas à l'autre, qui laisse de la place à celui qui regarde, qui ressent, qui entend, qui lui laisse la possibilité de se déplacer, d'entrer et se déplacer à l'intérieur, donc de quelque chose comme un truc de partage, quoi. L'œuvre ouverte, le livre L'œuvre ouverte d'Umberto Eco m'a instruit pour la vie là-dessus.
Il y est question de quoi?
Il est question de... Oh là là, je ne l'ai pas lu depuis 30 ans, je le rêve, je l'ai réimaginé. Il est question de modernité dans la création artistique. Il est question de ne plus considérer le lecteur ou le spectateur comme quelqu'un à qui on va enseigner ou un savoir ou une vérité ou une à qui on va dire installe-toi là, tu vas voir ce que tu vas voir, je vais te montrer ce que tu vas voir et tu m'en diras des nouvelles. C'est voilà, moi je sais, je c'est l'idée d'une construction de l'œuvre à plusieurs. Et c'est l'idée que l'artiste ne vient pas avec un savoir supérieur à celui qui est dans la salle. Il y a une forme de modestie, d'humilité de la relation.
En même temps, tout à l'heure, vous disiez ce spectacle, c'est un bus qui est lancé à 200 à l'heure.
Non, mais la vitesse... Ah oui.
Il n'y a pas de place.
Il n'y a pas de place pour devenir acteur au sens physique. Bien sûr, au sens physique du terme. Mais ce spectacle n'est pas représentatif non plus de ce que j'ai...
Non,
on l'a dit
vrai.
Tout à l'heure.
Mais moi, je ne suis pas forcément d'accord pour dire qu'il n'y a pas de place, d'ailleurs.
Ce que j'ai cherché, je ne saurais pas dire sur ce spectacle. Mais, par exemple, par rapport à une autre archive qu'on a entendue, moi, jusqu'à ce jour, j'ai plutôt mis les gens complètement dans le noir et complètement immobiles et j'aurais pu les attacher sur un fauteuil. Je l'aurais fait pour qu'ils n'aient pas à se soucier de leur corps et de le moins possible de questions voilà, de temporalité, de corporalité, et que je puisse aller travailler avec eux de cerveau à cerveau, d'imaginaire à imaginaire.
Et personne ne vous a laissé les attacher sur les sièges ?
Presque, si. Parce que quand on met des gens complètement dans le noir, on réduit quand même leur mobilité, bien sûr, par exemple. Donc, moi, j'ai plutôt cherché, jusqu'à ce spectacle, ça ira, j'ai plutôt cherché à rendre les gens le plus possible libres d'interpréter, libres de construire eux-mêmes par leur imaginaire tout un tas d'espaces manquants qui étaient vraiment posés là d'une manière intentionnelle de ma part, qui étaient là pour installer le dialogue ou installer la construction mutuelle ensemble, quoi. Là, les ellipses, par exemple, sont d'une toute autre nature. Ce qui n'est pas dit dans ce spectacle n'est pas dit de manière à produire une action du spectateur, une action d'imaginaire du spectateur. Elle est vraiment
classique. C'est juste pour avancer plus vite, quoi.
Exactement. Parce que ce n'est pas essentiel de dire. Là, tout est montré, tout est dit. Il y a pas de... C'est l'anti... C'est une forme d'antithèse de certains... De mes spectacles, ce spectacle, ça ira. Tout est dit, tout est montré. Il y a presque pas d'ailleurs. Presque pas.
Peut-être l'ancien ministre, M. Foulon, et son beau-fils Berthier étaient-ils coupables de fraude et de détournement ? Mais selon moi, ils avaient le droit à la justice et à un jugement digne de ce nom. On vient de me révéler il y a quelques minutes que le maire de Paris avait essayé de convaincre leurs tortionnaires qu'un procès exemplaire allait leur être réservé. Mais les gens n'ont rien voulu entendre. Ils ont menacé de détruire l'hôtel de ville et ils ont exécuté leur proie qu'ils détenaient entre leurs mains, tels des prédateurs. Ensuite, mesdames, messieurs, ces gens ont arraché le cœur de la poitrine de Monsieur Berthier et l'ont exhibé, pareil à un trophée, en chantant et riant avec enthousiasme. Je ne peux pas comprendre que dans cette assemblée, on puisse cautionner ou excuser de tels actes.
On ne l'excuse pas.
Je me sens trahi à la fois par ce peuple et je me sens trahi par tous ceux ici qui l'excitent encore plus en justifiant de telles monstruosités, c'est-à-dire vous, Madame Lefranc, que je respectais pourtant beaucoup jusqu'à ce jour. Excusez-moi, hein, mais quand je vois cette violence gagner un peu partout, j'en viens à me demander, notre peuple est-il digne d'être libre ? Est-il préparé ? Est-il préparé à la liberté et à l'émancipation ? Je l'avoue en cet instant, mesdames, messieurs, j'ai pas la réponse. Mais ce qui est certain, c'est que je demande aujourd'hui sans réserve, comme Monsieur Gigard l'a suggéré, que nous travaillons à remettre en marche une authentique justice dans ce pays, avec ses tribunaux, que ce soit les anciens ou bien de nouveaux, peu importe, pour en finir avec cette impunité bien plus destructrice pour notre action que des dizaines d'armées en marche.
C'est un extrait de « Ça ira la fin » de Louis-Joël Pommerat. Première chose, en écoutant cet extrait et en les revoyant hier sur scène, en les ayant vus il y a presque 4 ans sur une autre scène, de quel ordre ou comment qualifieriez-vous l'engagement des femmes et des hommes qui portent ce spectacle depuis bientôt 4 ans ?
Passionné, ouais, assoiffé. C'est des gens que j'admire... et que j'ai certainement choisi pour ça. C'est des gens qui ne sont pas rassasiés, qui ne sont pas repus de la représentation. C'est pas des gens qui ont la capacité, voilà, de se tranquilliser.
Ouais.
Ils sont fatigués, mais voilà, de se dire, voilà, on a fait le travail, c'est bien. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre maintenant d'intéressant? Non, qui continuent à se dire comment on peut trouver la justesse de cet objet-là. Comment, et si on l'a plus ou moins trouvé un soir, comment on fait pour la maintenir plus ou moins encore un petit peu, voilà, de manière constante ou régulière, voilà, qui peuvent pas faire autrement que de monter sur scène, quoi. Il y en a certains, oui, qui me disent, qui m'appellent en me disant, je suis malheureux, je suis pas sur scène, quoi, je transpire pas, je me fais pas mal ou peur. Je suis mal. Je suis pas comme ça. C'est pour ça que j'ai pas été acteur. Je suis pas comme ça. Donc j'admire ça. Ou en tout cas, je J'ai tellement besoin de ça, j'ai tellement besoin d'eux, j'ai tellement besoin de cette passion-là, de ce désir-là. J'ai tellement besoin de ces travailleurs, travailleuses, vraiment, pour pouvoir construire ce que je cherche et ce qu'on partage.
Il est peut-être là, l'ailleurs, dont vous disiez que dans ce spectacle-là, il n'y en a presque pas. Il est peut-être du côté de leur désir, de la fougue qu'ils ont à recommencer tous les soirs la Révolution française, la réunification des trois assemblées. Ça, c'est un espace d'ailleurs, ça, c'est un vrai espace d'interrogation, un espace d'absence qui n'est pas représenté. Qu'est-ce qui porte ces bonhommes et ces bonnes femmes qui, sur la scène du théâtre, font ça jusqu'à hier, par exemple, l'un d'entre eux se défoncer la voix et n'avoir presque plus de souffle. Ça, c'est un ailleurs puissant quand même, Joël Pommerat.
Oui, c'est un ailleurs puissant. Et surtout que c'est pas. Moi, je suis pas un partisan du théâtre qui. J'ai mis des micros très 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 vite dans mes spectacles parce que je voulais surtout pas que les gens ils se déchirent, ils hurlent, ils viennent mettre leur trip comme ça, comme on disait sur la scène. Je suis plutôt, j'étais plutôt à la recherche d'un théâtre calme, relativement mais sensible, petitement, modestement, sans éclat. Sauf que là, voilà, je suis aussi pour me laisser entraîner là où les choses doivent aller éventuellement et dans les actions. Et là, en l'occurrence, on a été amené à aller chercher des choses très agitées, très violentes, très virulentes, très 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 fortes, voire puissantes. Et les acteurs y vont, mais avec lucidité, avec conscience, en pleine conscience, sans exhibitionnisme, sans
spectacle.
Ouais, sans chercher à se donner en spectacle, oui. C'est ça que vous disiez. Bien sûr, oui, sans narcissisme. Ben, la posture de l'homme ou de la femme politique, ça peut aussi être une posture assez contente d'elle-même, quoi, assez arrogante, assez narcissique. Ça, on a essayé de déconstruire ça tout le temps. Ils continuent à le faire. Ils sont vigilants là-dessus. Donc quand ils se déchirent sur scène, quand ils se cassent la voix sur scène, c'est qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, quoi. Je sais plus la question, mais oui, c'est très très émouvant pour moi d'assister à ça le plus souvent possible.
Et en même temps, cette question du spectacle, elle semble planer quand même sur votre travail avec Saïra Saint-Louis, parce que, bon, sans en révéler trop, mais il y a à un moment donné une sorte de mise en scène d'une envoyée spéciale espagnole qui couvrirait justement ces états généraux, et c'est un des sourires dans la mise en scène qui nous fait dire que l'un des propos quand même, c'est qu'est-ce que c'est que la spectacularisation de la politique, de la parole politique, de l'action politique, et en quoi cette spectacularisation peut l'anéantir, peut anéantir complètement le procédé politique.
Ça a été notre ennemi à tout moment dans le travail d'acteur, d'actrice, dans le travail du jeu, c'est-à-dire d'oublier la dimension spectaculaire de la prise de parole publique, quoi, qui est finalement comparable à la problématique des comédiens et des comédiennes.
Il se balance ça d'ailleurs, hein, dans l'Assemblée. Vous êtes qu'un comédien, oui. C'est du théâtre.
Oui. Et ça aussi, c'est du théâtre, éventuellement, de dire ça. C'est une pirouette aussi possible. Bien sûr que le spectacle, c'est l'ennemi. Bien sûr. En même temps, il faut faire.
Ça vous fait beaucoup. Ça vous fait beaucoup d'ennemis, Joël Pommerat, au théâtre quand même. Donc, si le texte et la parole, ça peut être les ennemis, le spectacle, ça peut être l'ennemi. Vous êtes quand même en zone hyper ennemie en rentrant dans un théâtre et en faisant du théâtre.
Ouais.
Très menacé. de toutes parts.
Oui, oui, c'est bah oui, c'est pour ça que je suis si malheureux des fois, ouais. Entouré d'ennemis, ouais. Entouré de, mais c'est, je me les, oui, mais je me les invente pas, mais je pourrais des fois essayer de pas trop les regarder en face ou de les oublier un petit peu, mais j'ai du mal à les oublier, ouais.
Dites-moi donc ce que vous appelez peuple. Parce que moi, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Parce que précisément, et ça, je veux bien que l'utopie révolutionnaire se fonde sur le peuple, je veux bien. Alors, c'est sans les pauvres, sans les esclaves, sans les femmes, sans ceux qui ne savent pas lire, etc. Bon, et c'est le problème majeur qui se pose depuis 1789 à ce moment-là, c'est la grande ambiguïté de la reine déclarant, Marie-Antoinette, déclarant en mai 1788, « Je suis la reine du tiers-état ». C'était contre les aristocrates. Ça lui a pas réussi. Donc le problème, c'est que là, sur quel peuple s'appuie-t-on ?
Alors,
si vous me permettez,
je vous en prie.
Le problème, c'est que de 1789 à 1795, et il me semble que c'est, faut pas chercher des choses métaphysiques très compliquées, on a affaire là, au nom de la légitimité populaire, à des luttes qui sont des luttes de type de guerre civile entre des individus qui disent le peuple c'est moi, et qu'on voit bien précisément, notamment après 1792. La convention luttait pied à pied contre les sans-culottes jusqu'au moment où ils vont dire le gouvernement révolutionnaire c'est nous, c'est la convention qui représente et incarne le peuple. Aujourd'hui, aucun député n'oserait dire qu'il incarne le peuple, parce que ça n'aurait pas de sens, on rigolerait. Bon, en 1793, on le dit.
Il y en a encore quelques-uns qui s'y risquent de dire peuple, c'est moi.
J'ai cru comprendre. Ouais.
Jean-Clément Martin, en 2008, au micro de Brice Couturier dans l'émission du Grimmourde, qui commence par cette question-là. Alors, c'est quoi le peuple ? Au nom de quoi peut-on dire que nous sommes le peuple ? Évidemment, c'est une des questions qui s'agitent sur scène dans le spectacle Ça ira la fin de Louis. Et puis, pour reprendre cette remarque que vous faisiez tout à l'heure, parce que elle m'intéresse et elle m'intrigue, il n'y a presque pas d'ailleurs. En voilà encore un autre, d'ailleurs. Le peuple. Parce qu'on est à l'Assemblée, on est dans les comités de quartier, et puis il y a tous les endroits où nous ne sommes pas. On est au palais, on est avec le roi, avec la reine, etc. Et puis il y a tous les endroits où nous ne sommes pas, où est le peuple. Entre guillemets, le reste du peuple, Joël Pommerat. Ça aussi, c'est un ailleurs du spectacle, quand même.
Mais enfin, qu'est-ce que c'est le peuple, donc, hein ? C'est que je crois que le monsieur, il en parlait, là. Ça, c'est quand même bien aussi une question politique de s'approprier la définition de ce que serait le peuple. Donc, c'est une vieille question, c'est un vieux débat, et ça a occupé des débats à l'Assemblée de cette période révolutionnaire à plein de moments. Mais je pense que le théâtre, en tout cas, a du mal à rendre compte du collectif. Par définition, il ne sait pas saisir les masses, le collectif. Et puis d'abord, comment on représente le collectif ? On sait plus ou moins représenter l'action individuelle, la pensée individuelle. Mais la somme de plusieurs pensées et de plusieurs actions individuelles ne produit pas une vérité collective. C'est pas ça. Je pense que le collectif, il se raconte en littérature, il se raconte, il s'exprime, mais il se capte pas de manière ni visuelle, ni il ne se représente pas ni théâtralement ni cinématographiquement parlant.
C'est un endroit où le théâtre il l'achoppe vraiment plus, par exemple, que la littérature, qui aurait davantage de capacité à
bien
l'embrasser
sûr.
La masse.
Ben oui, par définition, oui. Donc. Je sais pas si vous pensez à ça. Je sais qu'une des critiques qui est venue du spectacle, c'était de pas assez raconter le peuple au sens redonner la juste place du peuple, c'est-à-dire des gens modestes, on pourrait dire ça, de parler d'autre chose que de la classe bourgeoise. Il me semble que dans mon spectacle, je représente ces gens-là quand même, ces personnes-là, issues de ces classes sociales-là, il me semble. Mais effectivement, j'ai pas de but comme ça de redonner la place, c'était pas mon propos.
Et puis de toute façon, on parlait d'archives tout à l'heure, enfin ce serait quand même bien prétentieux de considérer qu'il est possible de le faire à partir de quelles archives,
exactement,
à partir de quelles traces.
Par définition, les traces, mais bon, c'est très intéressant de constater ça, les traces qu'on a, ce sont des traces, donc, des cris, et les cris, c'est la bourgeoisie qui par définition aussi, qui possède les cris. Et donc, je pense que, je sais plus ce qu'on disait. On parlait de quoi?
Du peuple. De l'illusion que serait, entre guillemets, redonner la parole au peuple.
Ouais. Surtout que, dans ce spectacle, au départ, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est le désir, l'envie, c'était de raconter l'assemblée, les assemblées, de raconter, entre autres, cette parole politique qui s'exprimait à l'intérieur de ces assemblées. Et l'assemblée des assemblées, à ce moment-là, en tout cas dans cette période strictement 89, c'est cette assemblée des États généraux qui devient assemblée nationale. C'est cette transformation, comme on le disait aussi tout à l'heure, cette transformation, cette décision de transformer la dénomination d'une assemblée pour la faire devenir ce lieu d'incarnation de la parole collective. C'est éminemment important, c'était pour moi essentiel de pouvoir traiter ce lieu-là, cet endroit-là, et donc évidemment, forcément, en faisant ce choix, de sous-traiter d'autres dimensions de cette période-là, quoi.
Bon, bah, c'est une discussion qui commence, Joël Pommera. Mais bon, elle finit aussi. Ça ira, fin de Louis, jusqu'à mi-juin à Paris, au Théâtre de la Porte Saint-Martin, et plus encore, si affinité. On peut dire ça comme ça?
On espère, oui, que ça puisse continuer.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
À la prise de son ce soir, c'était Fabien Capel. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Un grand merci à Romain Debec de Lièvre, Jeanne Aléos, Valentin Rémy, Marianne Chassor qui m'aide à penser et préparer cette émission tous les jours. Dans un instant, le journal de France Culture à 22h. Toutes les infos sur franceculture.fr, bibliographie, archives et musique. Et podcast aussi. Et on vous dit à lundi. Ce sera avec Christophe.
Des mains, des gens, qui sait. Je vois les regards fuir, je vois les pieds de près, je vois les lacets, je vois qu'on presse le pas, je vois qu'on ne voit pas. Comme un grand duc dans la forêt lointaine,